Une ville d'Angleterre est aux prises avec une vague de crise cardiaque inexplicable. Quelque chose tue les habitants, l'un après l'autre.
Cela m'a bouleversé complètement. À un moment donné, elle reposait dans son lit et l'instant d'après, elle était morte.
Leur cœur cesse tout simplement de battre et les médecins ne réussissent pas à savoir pourquoi.
C'était un vrai cauchemar. J'avais l'impression que quelque chose ne tournait pas rond.
Qu'est-ce qui s'en prend aux gens de cette paisible ville d'Angleterre? Petite ville industrielle d'Angleterre, Irene Turner constate qu'elle a attrapé un rhume. Depuis la mort de son mari quelques années plus tôt, elle vit seule. Son voisin, Michael Woodruff, lui rend régulièrement visite.
Elle ne se sentait pas très bien. Elle a donc appelé son médecin pour qu'il passe la voir. Il lui a dit qu'il viendrait plus tard le même jour.
Irene n'aime pas se rendre au cabinet de son médecin. C'est pourquoi le docteur Shipman vient chez elle d'habitude. Un de ses collègues, le docteur Jeremy Dirks de la clinique Brooke, sait que Shipman favorise de très bonnes relations avec ses patients.
Le docteur Shipman était de la vieille école. Il aimait s'occuper de ses patients du berceau à la tombe. Il pouvait soigner chez eux certains patients alors que d'autres médecins les auraient plutôt fait entrer à l'hôpital. Aujourd'hui, quand quelqu'un a des douleurs à la poitrine, il compose le numéro d'urgence pour qu'on lui envoie une ambulance, mais lui, il allait les voir.
Le docteur Shipman décide d'envoyer Irene Turner à l'hôpital. Il lui demande de rester allongé jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Comme Michael Woodruff est sorti pour le déjeuner, le docteur demande à une autre voisine d'attendre l'ambulance avec Irene, car lui doit aller s'occuper d'un autre patient. Shipman examine sa malade une dernière fois avant de partir. Quand la voisine arrive, elle trouve Irene étendue dans son lit. Elle ne semble plus respirer et ne se réveille pas. La voisine appelle immédiatement le docteur Shipman et tente de trouver Michael Woodruff.
Hello, may I speak to Michael?
Shipman revient rapidement chez Irene. De son côté, la voisine finit par rejoindre Michael Woodruff.
I got a phone call.
L'autre voisine d'Irene m'a appelé pour me dire qu'elle était chez elle en compagnie du docteur Shipman et que celui-ci la croyait morte.
He thinks she's dead.
Hello? What happened?
Je me suis immédiatement rendu sur les lieux. La voisine était toujours là en compagnie du docteur Shipman.
Le diagnostic préliminaire de Shipman est une défaillance cardiaque due à son diabète. Mais la famille d'Irene Turner n'a jamais su qu'elle souffrait de problèmes cardiaques.
So sorry. It shocked.
Cela m'a bouleversé. Un instant, à peine plus tôt, elle était au lit. Je lui apportais des pâtisseries et elle se portait bien. Et l'instant d'après, elle était morte.
Ce décès était tout à fait imprévu. Ça a été bouleversant. J'étais en état de choc. On ne s'attendait pas à ça parce qu'elle était en forme. Je lui avais parlé la veille.
Elle semblait n'avoir qu'un simple rhume. La famille ne sait que penser. Quelques jours plus tard, Anna Spencer attend son médecin en compagnie d'une amie. Anna s'est plainte de problèmes d'estomac et de douleurs lombaires. Mais, mis à part ses désagréments mineurs, elle semble en bonne santé.
I need you now.
Pourtant, quelques minutes à peine après être entrée dans la salle d'examen, son cœur s'arrête subitement de battre.
One,
Le docteur Harold Shipman et son infirmière luttent pour la sauver. Mais il est trop tard. C'est la deuxième crise cardiaque à laquelle le médecin assiste en autant de jours. On ne peut plus rien faire pour sauver Anna Spencer. Elle est morte. Shipman doit transmettre la terrible nouvelle de son décès à son ami. Bien qu'Anna ait été maintes fois aux prises avec des problèmes cardiaques par le passé, ses amis et sa famille ignoraient qu'elle était si fragile. Le docteur Shipman pratique la médecine depuis près de 20 ans à Hyde, et tout le monde le connaît. Comment expliquer qu'Anna soit morte si subitement? Sa mort est-elle reliée à ses problèmes cardiaques? Quelque chose dans cette hypothèse ne fonctionne pas. Avant sa mort, Anna a exprimé le souhait d'être incinérée, une pratique courante en Angleterre.
En Grande-Bretagne, la loi exige que deux médecins signent l'autorisation d'incinération avant qu'on ne procède à la crémation d'un corps.
Le docteur Shipman remet le formulaire à Raj Patel de la clinique Brook.
Pour le docteur Shipman, il s'agissait d'une mort causée par une maladie coronarienne.
Les médecins examinent attentivement le dossier médical d'Anna pour savoir ce qui a pu déclencher cette mort subite.
Ses artères étaient en piteux état, comme une bombe à retardement qui n'attend que le moment d'exploser. Il n'était pas surprenant à la lecture de son dossier médical qu'elle soit morte d'une crise cardiaque.
Anna était très malade, mais non à l'article de la mort. Elle aussi était sous les soins du docteur Shipman. Pourquoi la clientèle de ce médecin semble-t-elle victime d'un aussi mauvais sort? Les médecins n'ont trouvé aucune raison de s'alarmer. Un habitant de la ville, lui, trouve la situation suspecte. Selon le chauffeur de taxi John Shaw, la situation était anormale. Il devait y avoir une explication.
Ces femmes étaient montées à bord de mon taxi quelques jours à peine avant de mourir.
Anna Spencer et Irene Turner étaient deux clientes régulières de Shaw, et la nouvelle de leur mort l'affecte énormément. Les décès se poursuivent quand Shaw perd encore une autre de ses clientes des suites d'une crise cardiaque.
Je m'étais constitué une bonne clientèle de dames à Hyde. Et un jour, on m'a dit de ne pas passer prendre l'une d'elles parce que cette cliente était décédée.
Shaw ne croit pas que ces femmes aient été les premières à mourir aussi subitement. Selon lui, il y en a eu beaucoup d'autres.
Même si elles n'étaient pas en parfaite forme, aucune d'elles, à mon avis, n'était à l'article de la mort.
Pourquoi les clientes de Shaw sont-elles visées? Et par quoi, sinon par qui?
Je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi ces femmes étaient toutes mortes dans des circonstances semblables.
Mais ces décès, pris individuellement, peuvent tous être expliqués. Une crise cardiaque peut facilement entraîner la mort de celui qui en est victime. Shaw est le seul habitant de Hyde à penser qu'il y a un lien entre ces morts subites.
Après le décès de 5 ou 6 femmes, je me suis mis à faire une liste de leurs noms avec leur adresse et la date approximative de leur mort.
Hyde est-elle la proie d'une épidémie? Y a-t-il quelque chose qui rôde en silence? Quelqu'un cherche-t-il à se venger du docteur Shipman ou de John Shaw? Le tueur silencieux semble n'attendre que le moment opportun pour frapper à nouveau. Suite à une série de morts subites à Hyde en Angleterre, un chauffeur de taxi en vient à croire qu'une cause mystérieuse est à la source de la mort de chacune de ses clientes.
Je les connaissais toutes. Et dans certains cas, quelques jours avant qu'elles meurent, elles étaient montées à bord de mon taxi. Elles semblaient en parfaite santé.
Shaw a peur, mais à part dresser la liste des victimes de ces morts suspectes, il ne sait que faire. Dans un autre quartier de Hyde, le docteur Harold Shipman examine le dossier d'un autre patient victime d'une mort subite, James Davidson. Il se rend chez le docteur Jeremy Dirks pour lui montrer le dossier et lui faire signer l'autorisation d'incinération.
Sa mort n'était pas ce à quoi on pouvait s'attendre, particulièrement quand on m'a décrit ses derniers jours et ses antécédents médicaux des derniers mois.
Shipman informe Dirks qu'il a examiné James plus tôt le même jour. Selon lui, le patient avait des problèmes circulatoires, en particulier dans ses jambes. Frank, le frère de James, attendait dans la cuisine pendant l'examen. Le docteur Shipman déclare qu'il a vite constaté que James était malade et qu'il devait aller à l'hôpital sur le champ en raison des battements irréguliers de son cœur.
Selon Shipman, il avait des antécédents de défaillance cardiaque et de problèmes respiratoires. C'était le genre de patient qui pouvait subitement développer de graves problèmes cardiaques.
Shipman demande au frère de James d'appeler une ambulance. Mais le temps que les deux hommes retournent au salon, James est immobile dans son fauteuil. Il ne s'est agi que de quelques minutes de conversation de trop entre le médecin et le frère du malade. Le cœur de James Davidson a cessé de battre.
La plupart des décès des patients du Dr Shipman étaient des morts subites ou relativement rapides, suite à une défaillance cardiaque, une crise ou une attaque.
Selon les dossiers médicaux des victimes, les morts semblent normales, même si la situation est étrange. Que se passe-t-il? Le docteur Shipman et John Shaw sont les seuls à se rendre compte du nombre grandissant de morts jusqu'à ce que le révérend Dennis Marr ne s'aperçoive à son tour de l'absence de plusieurs fidèles à la messe du dimanche.
Je venais d'arriver dans cette paroisse et je commençais à connaître les gens. La série de personnes décédées subitement commençait à me paraître bizarre. Des gens assistaient à la messe du dimanche et le lendemain, on m'informait qu'on les avait trouvés morts chez eux.
Est-ce la manifestation d'une maladie que l'on ne connaît pas encore? Ou faut-il envisager quelque chose de plus effrayant?
Ces personnes n'étaient pas du genre qu'on s'attend à voir mourir subitement. Aucune d'entre elles n'avait laissé entendre qu'elles n'allaient pas bien. Et elles n'étaient pas atteintes de maladies qui laissaient présager une fin aussi subite.
Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé. Les uns après les autres, leur cœur a tout simplement cessé de battre. Malgré les soins prodigués par le médecin, quelques malheurs semblent s'abattre sur la population de Hyde, et en particulier sur les patients du Dr Shipman, qui sont aussi les fidèles du révérend Marr et les clients de John Shaw. Quel est donc le lien entre ces cas? 4 mois après la mort de James Davidson, dans la maison où il vivait avec son frère Frank, un homme à tout faire vient terminer des travaux de réparation. Il constate que Frank Davidson est mort. C'est un autre coup dur pour la famille. La nouvelle du décès des deux frères Davidson finit par être portée aux oreilles du chauffeur de taxi, John Shaw.
Mon voisin m'a annoncé que les frères Davidson étaient morts à peu d'intervalle l'un de l'autre.
Au fur et à mesure que ses clients meurent, Shaw se rend compte d'une constante troublante. Ce sont tous des clients qu'il a conduits chez le même médecin.
C'en était rendu au point où lorsqu'on m'apprenait que quelqu'un était mort et que je demandais qui était son médecin, on me donnait toujours la même réponse.
Tous les anciens clients de Shaw sont soignés par le docteur Shipman. Est-il compétent? Se peut-il qu'il ait du mal à établir le bon diagnostic?
Mon esprit me disait que j'avais perdu la tête. Comment pouvais-je en être rendu à croire qu'un médecin très respecté de Hyde, le meilleur selon certains, tuait ses patients? C'était complètement absurde.
Quand le docteur Dirks apprend que l'autre frère Davidson est mort d'une crise cardiaque à son tour, il trouve la situation étrange lui aussi.
C'était plutôt inhabituel que deux membres d'une même famille meurent tous deux en aussi peu de temps.
Une fois encore, le dossier médical fait état de problèmes cardiaques.
Qu'il soit mort ainsi ne m'a pas du tout paru étrange. Tout m'apparaissait absolument normal selon le dossier.
Les médecins tentent de découvrir la source de ces étranges crises cardiaques. La cause en est peut-être fort simple.
À cette période de l'année, il y a toujours une grippe ou une quelconque infection virale qui traîne. C'est toujours comme ça au début de l'année et pendant le reste de l'hiver. Le taux de mortalité augmente donc toujours en raison de problèmes respiratoires pendant l'hiver.
Nous sommes habitués à voir mourir des gens presque chaque jour. De plus, les patients décédés semblaient tous avoir eu des problèmes de santé importants avant de mourir.
Mais on ne tardera pas à découvrir que ces décès sont tout sauf normaux. Les décès s'accumulent et l'une des directrices de l'entreprise de pompes funèbres ne tarde pas à voir se dessiner une constante dans tous ces cas. En mars 1998, quand un médecin de la clinique Brooke vient signer un autre formulaire pour autoriser une crémation, elle en profite pour lui faire part de son inquiétude à propos des nombreux décès. La position dans laquelle les corps sont retrouvés est extrêmement troublante.
Une des directrices nous a fait remarquer qu'on avait trouvé tous les corps dans une situation similaire. Ils étaient tous vêtus et souvent, ils étaient confortablement assis sur une chaise ou dans un fauteuil.
Il y a là quelque chose d'anormal. En général, on retrouve les victimes de crises cardiaques par terre, souvent avec un air de détresse. Elles semblent avoir tenté de se déplacer, sans doute pour téléphoner. Mais dans ces cas-ci, il n'y a jamais de traces de blessure. Cela peut indiquer que ces morts ne sont pas naturelles. Pour la directrice de l'entreprise de pompes funèbres, les patients n'ont pas succombé parce qu'ils ont été victimes d'une mystérieuse maladie qui les a emportés subitement. Quelqu'un les tue. La directrice ajoute qu'elle a fait une découverte encore plus troublante.
Dans tous les cas, le Dr Shipman avait co-signé le formulaire de crémation.
Les médecins de la clinique Brooke ne tardent pas à se souvenir de certains détails troublants.
Il arrivait souvent que l'un d'entre nous arrive en retard à l'une de nos réunions. La plupart du temps, c'est parce qu'il avait dû signer rapidement un formulaire de crémation pour le Dr Shipman. Et cela pouvait avoir pour effet qu'un autre médecin réponde. Quelle coïncidence ! J'en ai signé une pour lui, moi aussi.
Maintenant, John Shaw et les médecins de la clinique Brooke ne sont plus les seuls à parler du Dr Shipman.
I was aware that
Lors de mes visites paroissiales chez les gens, je m'étais aperçu qu'on mentionnait fréquemment le nom du Dr. Shipman. On disait que c'était un homme merveilleux et attentif. Mais parfois aussi, on ajoutait à la blague qu'on l'avait surnommé le docteur de la mort, à cause du grand nombre de ses patients morts subitement.
Pour la population, il est inconcevable qu'un médecin de la qualité du docteur Shipman puisse s'en prendre à ses patients. Si quelqu'un parle de ses soupçons et qu'il se trompe, il peut tout perdre.
Les patients du Dr. Shipman adoraient leur médecin. Il m'est arrivé de le remplacer à son cabinet. Quand les patients s'apercevaient qu'il n'était pas là, ils disaient souvent « Oh, j'aimerais mieux attendre le retour du Dr. Shipman ».
Au cours de l'année qui suit, 15 autres personnes meurent de façon identique. Qu'est-ce qui s'en prend ainsi à la population de Hyde? Les médecins de la clinique Brooke décident de tenir une réunion dans un pub d'une autre ville pour discuter de ces morts étranges. C'est là que le docteur Linda Reynolds, aujourd'hui décédée, dit tout haut ce que les autres osent à peine penser.
Le docteur Reynolds croyait qu'il s'agissait de quelque chose de plus effrayant encore, quelque chose que je n'arrivais presque pas à concevoir.
Le docteur Linda Reynolds a été la première à dire qu'elle croyait que cet homme s'en prenait volontairement à ses patients. C'était une déclaration très osée que d'accuser un confrère de tuer délibérément ses patients.
Les conséquences sont graves si les médecins font erreur, mais ils sont contraints d'agir. Quelques jours plus tard, l'entrepreneur de pompes funèbres s'entretient avec le docteur Shipman à propos du nombre élevé de décès de ses patients. Le médecin est outré qu'on remette en question ses qualités professionnelles. Il invite l'entrepreneur et quiconque veut les voir à examiner ses dossiers médicaux. Selon lui, dans chacun de ces cas, on peut clairement voir que ces patients pouvaient tous être victimes d'un arrêt cardiaque compte tenu de leurs antécédents médicaux. Mais les médecins ne sont pas convaincus. Linda Reynolds a fait le premier pas en affirmant que Shipman est peut-être coupable.
Après avoir fait ces déclarations, elle en est venue à carrément affirmer qu'il les tuait. Après ça, nous n'avions plus d'autre choix que de faire quelque chose.
Maintenant, on pointe du doigt le docteur Shipman. Mais ses présomptions sont-elles fondées? Quelque chose aurait-il échappé aux médecins et aux citoyens de Hyde? Il faudra une enquête policière et d'autres décès inexpliqués avant de trouver le coupable. Dans les années 1990, une série de morts subites éveille les soupçons des habitants de Hyde, une petite ville d'Angleterre. Le chauffeur de taxi John Shaw a noté le nom de ses clients morts mystérieusement. Sa liste compte maintenant plus de 20 noms.
On m'annonçait des décès toutes les semaines. Les clientes elles-mêmes ne semblaient pas s'en rendre compte. Elles perdaient une amie, puis une autre et encore une autre. Moi, je les voyais partir les unes après les autres, semaine après semaine. À un point tel que j'avais de la difficulté à me concentrer sur la conduite de mon auto quand je passais devant les maisons de toutes ces dames mortes. J'ai dit à ma femme, il faut absolument que je parle de ça à quelqu'un. Je dois rencontrer la police, je n'en peux plus. Elle m'a alors dit, si tu te trompes, tu pourrais nous attirer des ennuis. Te rends-tu compte de ce que tu es en train d'avancer ?
À peu près au même moment que les médecins de Hyde, Shaw décide lui aussi de passer à l'action. Il en parle à son vieil ami, le détective Stan Egerton.
Je lui dis, « Eh bien, j'ai une liste de noms de femmes qui ont été, selon moi, tuées par Shipman. » Et la réaction de Stan a été de me dire, « Bon sang, John, de quoi me parles-tu ? Combien de noms y a-t-il sur ta liste ?»
Pendant ce temps, les médecins de la clinique Brooke ont aussi des soupçons et ils se rencontrent pour échanger les informations dont ils disposent. Si leurs soupçons sont fondés, ils veulent disposer de preuves avant de parler à la police. Ils commencent par discuter du nombre effarant d'autorisations d'incinération que le Dr Shipman leur a demandé de signer.
J'ai tenté de comparer nos taux de mortalité aux requêtes de crémation du Dr Shipman. J'ai examiné nos statistiques. Il y avait une énorme différence entre les deux. Il y avait trois fois plus de formulaires d'incinération venant du Dr Shipman que de décès à notre clinique pendant toute une année. Pourtant, sa clientèle était trois fois moins importante que la nôtre. Cela signifiait donc que son taux de mortalité était de 10 fois supérieur au nôtre. Et dans ce calcul, on ne prenait en compte que les crémations. Il y avait également sans doute un autre 30% de décès à l'hôpital ou de victimes inhumées dont nous n'avions même pas entendu parler.
Avant de passer aux accusations, les médecins essaient encore une fois de trouver une explication au décès. Se peut-il que la clientèle de Shipman soit composée de patients plus atteints que ceux de la clinique? Peut-être sa façon de soigner ses malades à l'ancienne les attire-t-il?
Shipman croyait fermement que les patients ne devaient pas mourir dans un lieu impersonnel comme un hôpital. Si quelqu'un était mourant, il était bien mieux, selon lui, qu'il reste au foyer pour partir dans la dignité et la sérénité. Nous nous sommes donc dit que c'était peut-être pour ça que son taux de mortalité était supérieur au nôtre.
Malgré tout, les médecins trouvent la situation suspecte et ils entrent en contact avec la police. Au cours des jours suivants, un enquêteur examine les dossiers médicaux des malades de Shipman et les certificats de décès de 19 d'entre eux. Il cherche à trouver une preuve de la culpabilité du médecin.
Deux ou trois semaines plus tard, le même enquêteur est venu informer le docteur Linda Reynolds que selon la police, rien ne laissait croire à la culpabilité de Shipman. Il ne semblait y avoir aucun mobile à ces présumés meurtres et on n'avait rien trouvé qui corroborait nos soupçons. La police avait conclu que nous avions réagi de manière excessive et que nos soupçons n'étaient pas fondés.
Les médecins sont soulagés d'apprendre que Shipman n'est pas coupable.
Dans ces cas-là, on souhaite ne pas avoir raison. On se refuse à croire qu'un confrère puisse tuer ses patients. On est alors soulagé que quelqu'un nous dise que tout est correct.
Suite à cette enquête, nous avons remarqué que le nombre d'autorisations d'incinération à signer avait réduit considérablement.
Mais si le Dr Shipman n'a pas tué ses patients, comment expliquer ses morts? Se peut-il que cette vague de décès ne soit que le fruit du hasard? Après une période d'accalmie, les décès reprennent. En février 1997, William Catlow revient de vacances avec Margaret, sa partenaire de danse. Le lendemain, il se rend chez elle pour la voir.
J'ai trouvé étrange que la porte soit ouverte. Je me suis rendu à la porte d'entrée principale et j'ai vu que la porte du vestibule était ouverte elle aussi. C'était la porte qui donnait accès au salon. Quand je suis arrivé à la deuxième porte, Shipman était là.
Le médecin lui dit que Margaret l'a appelée parce qu'elle souffrait d'étourdissement et de nausées. William s'approche de son ami. Il croit sentir son pouls.
J'ai pris son bras sur le fauteuil où elle était assise. Je n'en croyais pas mes yeux.
Elle était morte. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Le docteur Shipman explique à Catlow que Margaret est décédée des suites de complications causées par une pneumonie.
Je n'arrivais pas à y croire. Ses vêtements avaient été étendus sur la corde. Sa planche à repasser était dans la cuisine, ainsi que le fer prêt à être utilisé. Une femme ne fait pas ça quand elle se porte mal. Elle se préparait à faire des tâches ménagères.
Une autre mort subite. Une autre patiente du docteur Harold Shipman. Si le médecin est innocent, quelque chose ou quelqu'un rôde dans la petite ville de Hyde. Et il sait comment détourner les soupçons. Le 24 juin 1998, lorsqu'une amie d'Elizabeth Smythe constate que celle-ci ne s'est pas présentée à une importante réunion du conseil municipal, elle vient la voir chez elle. Elizabeth est couchée sur son canapé et ne respire plus. L'amie appelle tout de suite son médecin, le docteur Harold Shipman. Mais il est déjà trop tard. Elle est morte.
Yes, hello.
Le chauffeur de taxi John Shaw apprend la nouvelle de la bouche d'une de ses clientes.
C'était une femme pleine d'entrain et d'énergie. Elle était devenue une bonne amie à moi. Le matin de sa mort, on m'a dit que le docteur Shipman lui avait rendu visite.
Même si la police est incapable de trouver une faille dans la pratique du docteur Shipman, John Shaw, lui, n'arrive pas à démordre de ses soupçons.
Je ne pouvais pas m'enlever de la tête que c'était Shipman qui tuait ces femmes.
Finalement, une semaine plus tard, l'enquête débloque quand la fille d'Elizabeth Smythe se rend à la police avec en main ce qu'elle croit être un faux testament.
Un notaire de la ville est entré en contact avec elle pour lui annoncer qu'il avait entre les mains le testament de sa mère, dans lequel elle léguait toute sa fortune au docteur Shipman.
La fille d'Elizabeth est persuadée que ce testament est faux. En sa qualité d'avocate, c'est elle-même qui a aidé sa mère à faire son testament quelques années plus tôt.
J'ai commencé à croire qu'il y avait eu un crime quand j'ai vu le document, c'est-à-dire le testament en tant que tel. C'était un document très mal fait, une contrefaçon de mauvaise qualité.
Le testament fait complètement fi de la famille d'Elizabeth et stipule qu'elle lègue tout à Shipman. À Hyde, en Angleterre, la mort suspecte d'Elizabeth Smythe, une autre patiente du docteur Shipman, pousse les détectives à ouvrir une nouvelle enquête. Même si Shipman a suggéré que le corps de Smythe soit incinéré, la famille tenait à ce qu'elle soit inhumée. Les policiers peuvent donc exhumer son corps. Ils doivent trouver des réponses. S'agit-il d'une crise cardiaque ou d'un meurtre? C'est le médecin légiste John Rutherford qui fait l'autopsie. Il ne trouve aucun indice de crise cardiaque.
Cette femme était en parfaite santé et il n'y avait en elle aucune anomalie qui aurait pu nous mener à sa mort. Nous avons donc dû nous mettre à la recherche d'autres causes.
Le médecin légiste prélève des échantillons de tissu et les envoie au laboratoire toxicologique pour analyse. En attendant les résultats, la police fouille la maison de Shipman.
Nous étions à la recherche de plusieurs éléments. D'abord, nous voulions trouver sa machine à écrire, qu'il avait peut-être utilisée pour faire le testament. Nous cherchions aussi des formulaires de testament vierges, chez lui ou à la clinique.
on découvre de la diamorphine, un médicament que Shipman n'a pas l'autorisation de garder en réserve.
La diamorphine est la forme la plus concentrée de morphine qui soit. Le nom qu'on lui donne communément, c'est l'héroïne.
En surdose, cette drogue que les médecins utilisent en Grande-Bretagne pour soulager la douleur peut tuer. Les policiers fouillent le cabinet de Shipman et lui confisquent ses dossiers médicaux. C'est à cet endroit qu'ils font leur découverte la plus déterminante. Une machine à écrire. Si c'est l'appareil qui a servi à fabriquer le faux testament, cet indice prouvera hors de tout doute la culpabilité du Dr Shipman.
En fait, il nous l'a offerte quand nous sommes allés à son cabinet. C'est sans doute ceci que vous cherchez, nous a-t-il dit. Des analyses subséquentes ont démontré que c'était bien la machine qui avait été utilisée pour faire le testament.
Le Dr Shipman ne s'est pas limité à fabriquer ce faux document. Les policiers trouvent des éléments qui prouvent qu'il se sert des résultats d'analyse de ses patients les plus malades pour dissimuler ses agissements meurtriers.
Certains dossiers médicaux ont été faits plusieurs mois, voire plusieurs années, après le moment où ils étaient censés avoir été faits.
Il utilise ces dossiers pour écarter tout soupçon sur la mort subite et mystérieuse de ses patients.
Ces dossiers fournissaient de faux antécédents médicaux, comme des problèmes cardiaques. Shipman avait falsifié ces dossiers pour étayer les décès par maladie cardiovasculaire de tel ou tel individu.
Le testament, quant à lui, contient des preuves encore plus flagrantes.
Nous avons trouvé l'empreinte digitale de Shipman dans un des coins inférieurs du document. Et encore plus significatif, la victime, elle, n'en avait laissé aucune.
Les policiers disposent enfin d'un mobile. Mais comment Shipman s'y prenait-il au juste pour tuer méthodiquement ses patients? Les résultats des analyses toxicologiques montrent des niveaux élevés de diamorphine, substance qui reste dans les tissus indéfiniment. Le médecin légiste croit, à en juger par la quantité présente, que la victime est morte dans les 3 heures suivant l'administration de la drogue. Une seule explication est possible.
Dr. Chapman, how about you?
Elizabeth Smythe a été empoisonnée. Et qui est la dernière personne à l'avoir vue, sous prétexte de la soigner?
Pour justifier une aussi grande quantité de diamorphine, ce qui a causé sa mort, Shipman nous a fourni son dossier médical. Ce dernier contenait des notes de sa main qui tendaient à suggérer que la victime était héroïnomane. C'était une présomption plutôt bizarre, compte tenu de l'âge et du statut social de la patiente.
Shipman nie toute implication. Mais le 7 septembre 1998, la police de Manchester l'arrête pour le meurtre d'Elizabeth Smythe. Les policiers ignorent encore quelle proportion démesurée prendra l'enquête. Lorsque la population apprend la nouvelle de l'arrestation du médecin, des personnes viennent parler de leurs soupçons relativement à d'autres meurtres.
En l'espace de 2 semaines, nous nous sommes retrouvés à enquêter sur 24 morts. Et à la mi-août, nous enquêtions sur pas moins de 60 décès.
Mais pourquoi les gens ont-ils autant attendu pour parler?
Parmi les nombreuses personnes interrogées, plusieurs n'avaient jamais pu oublier les circonstances étranges entourant la mort d'un de leurs proches. Beaucoup d'entre elles n'avaient osé en faire état et en parler, parce qu'elles se croyaient seules dans cette situation.
Il est difficile de remettre en question la pratique d'un médecin respecté, et Shipman se servait de sa position privilégiée pour se ménager un accès facile auprès de ses victimes. Les preuves recueillies ont permis de découvrir que Shipman choisissait ses victimes froidement et au hasard. Ses patients croyaient recevoir un médicament pour leurs problèmes de santé alors qu'il leur injectait une dose fatale de diamorphine.
Les gens ont une confiance aveugle en leur médecin. N'importe qui tendrait le bras pour recevoir cette injection, ne croyez-vous pas? Ils ne diront pas « Excusez-moi, mais pourquoi me faites-vous cette injection ?» Ils tendent plutôt le bras et c'est exactement ce que ma mère a fait.
Les policiers veulent maintenant trouver des preuves à partir des victimes qui n'ont pas été incinérées. Ils devront procéder à près d'une douzaine d'exhumations. La police fait enquête sur un nombre effarant de décès, plus de 500. C'est plus que quiconque ne l'avait imaginé. Pour déterminer lesquelles des victimes ont pu être assassinées, on examine leur dossier médical. C'est toujours la même histoire qui se répète. Et pour la police, ces constantes finissent par constituer un autre indice.
En général, les gens meurent seuls ou en compagnie de leur famille, mais rarement en présence de leur médecin généraliste. Pourtant, le Dr Shipman était souvent présent.
Les personnes décédées avaient de plus un air serein, le plus souvent.
De par ma profession de médecin légiste, je sais que les gens ne meurent pas comme ça. On les trouve dans un escalier, sur le sol de leur chambre à coucher, devant la porte d'entrée de leur maison, mais rarement assis paisiblement dans un fauteuil, comme ça a été souvent le cas avec les patients de Shipman.
À la fin de l'enquête, on attribue 345 morts à Harold Shipman. Cela fait de lui l'auteur le plus prolifique de meurtres en série de la Grande-Bretagne. Les procureurs ne l'accusent toutefois que de 15 meurtres. Le 31 janvier 2000, Harold Shipman est jugé coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui et condamné à 15 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Mais une question demeure. Comment le médecin a-t-il pu s'en tirer pendant aussi longtemps ?
Il est très difficile de concevoir qu'un médecin puisse tuer ses patients. C'était inconcevable pour nous en tant que confrères, et pour la police aussi, de même que pour la population. Je crois que c'est pour cette raison qu'il nous a fallu autant de temps pour faire accuser Shipman. Ce qu'il avait fait nous apparaissait simplement impossible.
Le respect est un sentiment très puissant.
Même lors du procès et de la condamnation de Shipman, de nombreuses personnes de Hyde le croyaient toujours innocent. On le croyait victime d'une machination ou d'un complot. J'imagine que certaines personnes, ici et là, à Hyde, le croient d'ailleurs toujours innocent.
John Shaw, lui, a eu le courage de parler à son ami, le détective Stan Egerton.
Quand j'ai parlé à Stan, je lui ai dit que je me sentais extrêmement coupable de ne pas lui avoir parlé de mes soupçons plus tôt.
Son ami lui répond que sans la vigilance des médecins, les choses se seraient peut-être déroulées autrement.
La réaction de Stan a été de me répondre qu'il m'aurait sans doute pris pour un fou ou quelqu'un qui en voulait aux médecins. Je crois qu'on aurait dû réagir bien plus vite qu'on ne l'a fait.
Les enquêteurs ont tenté d'expliquer ces meurtres. Le révérend Maher, pour sa part, croit que Shipman tuait pour l'excitation que ça lui procurait.
Il aimait assister à la mort de ces personnes, puisqu'il était toujours présent. Ensuite, il partait, appelait les membres de la famille et revenait quand elle était sur les lieux pour jouir le plus possible de la situation.
Selon le serment d'Hippocrate, Harold Shipman avait juré de s'abstenir de tout mal. Mais il a rompu cette promesse. Le 13 janvier 2004, Harold Shipman a été trouvé mort dans la cellule où il était confiné depuis 4 ans. Il s'est pendu avec ses draps. La nouvelle de son décès a fait ressurgir un torrent d'émotions au sein de la population qui l'a si profondément blessé. Ses émotions ont été exprimées par un seul mot, écrit en grosses lettres sur son ancienne clinique.
Il a laissé une profonde cicatrice sur notre communauté qui ne s'effacera sans doute jamais.